rien pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, un bandel.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées là.
Il va passer de 2 minutes à la pendule de la plus rebelle des radios. Vous êtes à l'écoute du Canu Info en ce jeudi 7 novembre, si je me trompe pas trop, en compagnie bien sûr de Delphine.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous et toutes.
Et ce soir, dans le Canu Info, nous allons parler de l'absurdité de la semaine. C'est l'intro que tu vas nous faire, j'imagine.
Ça va être très très bref.
Je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, on parlera un petit peu des fachos avec un petit truc sur Soral, peut-être futur évadé fiscal, et Dresde, une ville qui essaye de donner l'exemple. On parlera d'énergie, d'environnement, de diplomatie internationale et de gros business. On parlera un peu d'Irak, on parlera un peu d'humour ou pas de la part de nos politiciens et politiciennes, pas plutôt politiciens aujourd'hui. On parlera de Shanghai, enfin voilà, peut-être de Lafarge, tout ça. On commence donc par cette absurdité de la semaine. C'est quoi donc?
En fait, j'ai hésité, je dois vous dire, entre deux absurdités cette semaine.
Entre les lois fascistes, entre racistes.
C'est presque vraiment absurde. Alors, il y en a un, c'est de l'absurdité haineuse. Et l'autre, je suis pas sûre de saisir. Alors, j'ai hésité parce que j'ai appris qu'il y avait une association de soutien à Monsieur Balkany qui s'était créée avec une cagnotte.
Ouais, c'est drôle quand même, quelque part.
C'est absurde. Mais sinon, l'absurdité haineuse de la semaine, et donc je te devance dans l'extrême droite, comme ça, je t'ouvre un tunnel. Ça nous vient d'un tweet de Monsieur Philippot.
Ah oui, qui doit être pas mal.
Je vais donc vous le lire. Et je te propose tout de suite d'enchaîner, parce que je pense qu'il n'y a pas à commenter.
D'accord, ok.
Mise en bourse de la Française des Jeux. Éparpillée sur le marché capitaliste, un bien collectif, rentable, identifié depuis des siècles au pays. Deux points. Un crime contre l'intérêt national.
Il est bon. Voilà. Alors, on rappelle que la Révolution française avait interdit les jeux d'argent, hein, parce que c'est un impôt indirect sur le peuple, mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, nous poursuivons avec ses amis, les autres membres de l'extrême droite. On va pas faire que ça, parce qu'il y en a tellement, il faudrait en parler pendant des jours et des jours.
Alors, c'est que des fois, ils sont pas tous amis, c'est ça, en plus, c'est qu'ils arrivent à s'engueuler de temps en temps.
D'ailleurs, ils sont pas tous, effectivement, là, on va parler d'Alain Soral. Grande figure de l'extrême droite en France, grande non pas par la qualité de ses réflexions et son intelligence, enfin son intelligence si, en tout cas sa filouterie, ça c'est sûr. On rappelle qu'il a été condamné moult fois pour antisémitisme, négationnisme, enfin voilà, pas mal de choses. Il diffuse ses thèses racistes, notamment à travers son association, puisque c'est la structure qu'il utilise, qui s'appelle Égalité et Réconciliation. Il est président de cette structure. Voilà, le site offre des services payants. On va parler justement d'argent, comment il se finance et comment il est en train de sortir de la fiscalité française pour ne plus payer d'impôts. Oui, parce qu'on peut être un gros petit facho nationaliste et refuser de payer des impôts. Alors c'est pas forcément que pour cette raison-là qu'il est obligé de partir. Mais en tout cas, il est en train de s'exiler à Genève. Alors c'est quelqu'un qui s'appelle Tristan Mendes France. Alors il est issu de cette famille célèbre, les Mendes France. On a connu au moins un ex-président du Conseil des ministres, un ancien résistant aussi. Enfin voilà, il est issu d'une grande famille politique qui ne défend pas forcément les idées du Canu Info du jeudi. Mais c'est quelqu'un qui est de gauche, hein, bien évidemment. Et c'est lui qui a écrit un article et qui essaye de démonter le montage financier franco-suisse qui est en train de mettre en place Soral et ses amis d'égalité et réconciliation. Alors on rappelle qu'en fait, pour se financer à travers cette plateforme d'égalité et réconciliation, il vend, c'est une vraie machine à casse en fait, parce que alors d'abord on peut payer sa cotisation, donc c'est entre 20 et 100 euros, ensuite on peut faire un don, ensuite il y a plein de produits divers à acheter, des livres, des vidéos, plein d'autres choses, et puis on peut, comme ça, quand on aime bien le petit facho Soral, aller sur les éditions Contre Culture, hein, parce qu'ils aiment bien utiliser des mots appartenant au discours de la résistance, de la révolution, pour les transformer pour les utiliser dans leur fascisme quotidien. Vous allez voir, là c'est Contre-Culture, c'est le nom de sa maison d'édition, avec des cas, mais c'est pas la seule fois où ils utilisent cette petite sémantique, hein, puisque la nouvelle structure bancaire mise en place sur le site d'égalité et réconciliation, quand vous payez par carte bleue, ça va à une association suisse qui s'appelle les Amis Genevois de la Tolérance. Vous imaginez un antisémite notoire qui appelle son association les Amis Genevois de la Tolérance. C'est assez incroyable. Très très fort pour détourner un petit peu le vocabulaire et puis pour brouiller les pistes pour les imbéciles ou celles et ceux qui ne connaîtraient pas le système d'égalité et réconciliation. On est dans l'extrême droite, mais très confusionniste. Le but, c'est de perdre un petit peu les gens qui manquent un peu de culture politique pour essayer de les détourner vers cette extrême droite que défend Soral et ses amis. Alors, il faut savoir que jusqu'à maintenant, ils utilisaient PayPal. Entre autres pour se faire payer sur les achats du site. PayPal les a virés parce que PayPal dans les conditions d'utilisation, il ne doit pas y avoir d'antisémitisme, de racisme, des trucs comme ça. Donc ils ont perdu PayPal. Ils ont perdu un autre partenaire financier qui s'appelait Stripe. Ils ont perdu des banques, hein, puisque je sais plus quelle banque française était partenaire. Ils ont eu un moment la Banque Postale, et après c'était BNP Paribas qui ont fermé les comptes. Alors eux, ils dénoncent ça, les petits nazillons, en disant c'est une persécution. Ça défend la finance, ça démontre la mainmise de cette finance internationale sioniste, hein, parce qu'il faut toujours ajouter sioniste quand on est du côté d'égalité et réconciliation. En tout cas, suite à ces différents déboires avec la justice et avec les banques, avec certaines banques françaises, pas toutes, il a décidé de s'exiler en Suisse et de faire entrer l'argent dans cette association suisse. En plus, elle ne paie pas d'impôts, puisqu'elle est reconnue, soi-disant, d'utilité, tout ça. Donc c'est un bel arnaqueur, hein, quand même, que ce petit Soral. Non seulement il défend des idées nauséabondes, mais en plus, quand vous achetez quelque chose sur son site, eh ben, ça va pas du tout, l'argent va pas du tout où il devrait aller. Donc quelque part, il fait comme les multinationales, hein, ils volent l'argent public, puisque quand on donne pas des impôts qu'on devrait donner, c'est indirectement un vol d'argent public. Alors l'asso, hein, c'est dans qu'il a monté, elle est dans un canton de Genève. Ils ont déposé un nom de domaine qui sont les initiales des Amis Genevois de la Tolérance .com du coup. Officiellement, l'asso, elle veut défendre les libertés publiques au sens large, et elle est apolitique. Elle est politiquement neutre. Alors, difficile d'être politiquement neutre quand on s'appelle Égalité et Réconciliation et qu'on s'appelle Alain Soral. Mais bon, hein, de toute façon, c'est un truc qu'il a sûrement monté lui avec ses amis pour arnaquer le fisc français et puis arnaquer aussi les gens qui financent. Mais ça, c'est leur problème. Ceux qui financent, ça les regarde. Quand on va plus loin, et la personne dont je parlais tout à l'heure, la Tristan Mendes France, a essayé d'enquêter pour comprendre comment était montée la structure financière, il tombe sur un avocat, en fait, ou un notaire, c'est un avocat qui s'appelle Maître Pascal Junot, et c'est lui qui gère cette association-là, les amis Genevois de la Tolérance. Alors, faut savoir que c'est quelqu'un qui est connu en Suisse, hein, puisqu'il était membre de l'UDC, un parti politique suisse très très nationaliste. Mais lui, il était encore plus extrémiste, puisque cet avocat, il s'est fait virer parce que ses positions étaient trop extrémistes pour ce parti qui était déjà très à droite. Vous imaginez un petit peu le concept, on comprend pourquoi il est ami avec Soral. Voilà. On retrouve l'avocat de Soral, Damien Viguier, aussi, qui est domicilié aussi dans l'étude de cet avocat. Voilà. Alors, tout ce que démontre, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, c'est que juste que voilà, Soral, il est condamné ici. Alors il a fait appel hein, de certaines condamnations, mais il sent qu'il est plus en odeur de sainteté quelque part, que voilà, son discours xénophobe, raciste est trop visible, et donc il se barre en Suisse pour essayer de continuer de faire ces choses-là. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction de la part des services de l'État. C'est là où le bas blesse a priori, puisque voilà, il monte sa structure, il l'a fait comme les multinationales, hein, et du coup il délocalise le siège social quelque part pour encaisser de l'argent sans payer de taxes comme tout à chacun et tout à chacune. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est voilà les petits filous nationalistes qui s'engraissent sur le dos des gens qui sont soit vraiment de leur côté, soit un petit peu bêtes. Je reste avec l'extrême droite et un truc qui est un peu intéressant, qui est plutôt positif. Alors ça nous vient de Dresde, dont Dresde, hein, si vous connaissez pas, une ville où l'extrême droite est très implantée depuis très longtemps. On se rappelle des gros rassemblements d'extrême droite dans les années 90. C'est là où est né le mouvement Pegida. Vous savez, ces mouvements racistes, anti-migrants qu'on a vu apparaître il y a 3-4 ans. C'est aussi un land dans lequel une région dans lequel c'est la Saxe, hein, le nom de la région, dans lequel l'AFD, donc l'Alternative für Deutschland, parti d'extrême droite, a fait un gros score en premier septembre, 27,5%. Et donc, Dresde, hein, qui est la capitale de cette région, de la Saxe, a décidé d'adopter donc l'équivalent du conseil régional allemand, enfin de Dresde, ou de la ville peut-être, a décidé d'adopter une résolution contre la montée de l'extrême droite. Alors ça c'est une initiative hein, qui a été soutenue par les partis plutôt à gauche, hein, on a Die Linke, naturellement, le SPD, les libéraux, et un tout petit parti, et c'est d'eux que c'est venu, qui s'appelle Die Partei, bon, ça veut dire le parti en allemand, et c'est un conseiller élu de ce petite formation à l'extrême gauche, qui est très agressive, qui est pas mal dans la provoque, qui a lancé cette résolution, qui demande, qui signale qu'officiellement il y a un état d'urgence nazi à Dresde. Alors la traduction, je sais plus comment ça fait, je vais essayer de vous la retrouver. Mais ça a énervé pas mal de gens, le nom d'état d'urgence nazi. Pourquoi ? Ben parce que ça fait comprendre qu'il y a un problème avec l'extrême droite en Allemagne. Et actuellement, les politiques se cachent quand même pas mal pour ne pas trop en parler de cette extrême droite et pour essayer de dire que c'est juste un micro-phénomène. Donc en allemand c'est Nazi Notstand, le terme urgence nazi, utilisé par ce parti et par donc leurs amis qui ont voté. Donc ils ont gagné 39 voix contre 29. On va regarder un petit peu qui sont ces 29, et c'est là où le bas blesse, et c'est là où on sent que l'Allemagne est sur une très très mauvaise pente. 29 conseillers. Alors bien sûr il y a les conseillers d'extrême droite élus de la région de Dresde, mais on note des conseillers qui appartiennent à la CDU. Donc ce sont ce qu'on appelle les chrétiens démocrates, parti conservateur allemand, entre le centre droit et la droite. C'est le parti d'Angela Merkel. Et donc les membres de la CDU se sont abstenus, n'ont pas voté pour cette résolution. Alors ils ont une excuse, ils disent que ça va donner une mauvaise image de la ville à l'échelle internationale. Une excuse bateau. Surtout qu'en début de semaine, lundi, 17 responsables de la région de Thuringe de la CDU, donc du parti d'Angela Merkel, ils ont fait quoi ? Ils ont fait une tribune pour dire qu'il fallait s'ouvrir vers l'AFD. voire faire des accords avec le parti d'extrême droite. On commence à comprendre ce qui est en train de se passer. Jusqu'à maintenant, la CDU avait résisté à basculer trop à droite, notamment ces dernières années, ils étaient au pouvoir avec dans des grandes collision,
ça peut marcher.
Non, mais c'est pas collision.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
J'ai perdu le nom. Bon, avec notamment avec le centre gauche, les SPD. Du coup, ça avait dû calmer un petit peu le côté réactionnaire de la CDU. Et là, on sent que ça commence à vriller. Donc le discours politique se droitise beaucoup en Allemagne et la parole antisémite s'est libérée. L'Allemagne, c'est pas un petit peu particulier puisqu'ils ont eu beaucoup d'attaques. Alors en France, il y a des attaques racistes, il y en a tous les jours, mais c'est des attaques à petite échelle que les médias médiatisent pas trop, enfin qu'on voit pas trop apparaître dans les gros médias. En Allemagne, ça a été plus fort hein, puisque on rappelle que Walter Lübcke, donc qui était un membre de la CDU hein, d'ailleurs, a été assassiné par un néo-nazi en juin dernier. Pas mal de d'élus, notamment des Verts et de la CDU, ont été victimes de menaces de mort, dont avec des trucs qui vont assez loin quand même. En octobre dernier, à la Halle, un attentat a été raté contre une synagogue, mais le petit néo-nazi s'est retourné et est allé assassiner deux personnes dans un restaurant turc. Voilà, les actes politiques, on se rappelle hein, des incendies de foyers de migrants, des choses comme ça, les actes violents, voire les assassinats de la part de l'extrême droite sont en forte progression en Allemagne. Et la ville de Dresde, finalement, montre une image moins négative de l'Allemagne en disant, nous, on réagit, même si ce qu'ils ont voté, il n'y a pas d'action, ils vont pas interdire des choses qu'ils n'ont pas ce pouvoir-là. Par contre, l'idée, c'est de parler de la démocratie, de parler du racisme et de mettre en avant autre chose pour essayer de lutter contre les idées, puisque ce qui est pernicieux, ce qui est dangereux, c'est pas les partis, c'est les idées qu'il y a dans ces partis. Vu que la CDU semble s'intéresser aux idées, donc voilà, c'est bien de contre ça qu'il faut taper, voilà. Donc c'est plutôt une réaction saine pour l'instant de la ville de Dresde.
Oui, aujourd'hui on aurait pu aussi vous parler du procès Jeanne qui s'ouvre, qui touche ce qui était le Front National, qui est devenu le Rassemblement National, hein, ce qui est exactement la même chose. Ça touche pas trop, ça éclabousse pas trop finalement Madame Le Pen, ce qui est un peu dommage.
Elle a toujours su se mettre à l'écart.
Et ça touche pas mal de ses amis, partenaires de campagne. Donc évidemment c'est le début, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est une affaire où on a senti qu'ensuite Madame Le Pen et ses amis ne critiquaient pas trop les autres qui se retrouvaient face à la justice, parce que eux-mêmes...
D'ailleurs, elle avait même défendu Mélenchon à un moment.
Ouais, bah oui, ouais. Voilà. J'avais prévu de vous parler de l'Observatoire international des prisons qui est menacé de fermeture, qui est en danger pour perdre, parce que l'Observatoire perd son argent, ses subventions, son soutien, alors qu'on n'a jamais autant incarcéré en 2019. Enfin, je veux dire, on n'a pas fini l'année et que c'est déjà une bonne année de record pour l'enfermement. Si je vous en parle pas, c'est parce qu'on a croisé nos amis de l'émission La Petite Cuillère, que vous allez retrouver à 20h, et que c'est un des sujets qui va faire partie de cette émission. Donc je vous propose plutôt d'écouter La Petite Cuillère, et comme nous, on a beaucoup de sujets, on va passer à autre chose. Voilà, mais c'est un sujet important, hein, l'Observatoire international des prisons. Je rappelle que ça a 30 ans, que c'est né à Lyon, et que c'est essentiel aujourd'hui à l'analyse de la vie carcérale et à la dénonciation de ce qui s'y passe.
Voilà, au soutien aux prisonniers, enfin voilà, c'est un truc qui est pas symbolique, c'est vraiment très très important.
Non, c'est très important.
Tu vas nous parler de diplomatie internationale?
Non, je vais chambouler notre déroulé. Je vais parler du centre Pompidou à Shanghai, puisque tu vas parler tout à l'heure d'une décision de Monsieur Macron concernant un méga complexe. Donc je vais vous rappeler que Monsieur Macron est parti en Chine se balader. Il aime bien, hein, c'est un voyage qu'il avait déjà fait avec Brigitte. Il est donc allé signer quelques contrats, bien évidemment. Vous avez peut-être vu ces scènes absurdes où il rentre devant un parterre hein, des représentants du Parti communiste chinois. C'est assez hallucinant, hein, ces scènes sur quand même une dictature. Enfin bon, mais Monsieur Macron n'est pas gêné. Et donc on est allé, nous, la France, poser un centre Pompidou là-bas. Parce que l'art contemporain, c'est bien, surtout quand on l'exporte. Et l'idée, évidemment, c'est de vendre la France par d'autres moyens que ses industries et ses savoir-faire, mais de vendre aussi son luxe, une image. Et donc, en vendant l'art, on se dit que ça va être chouette, hein, qu'on va donc bien s'exporter. En tout cas, Monsieur Macron a cette semaine donc inauguré ce centre Pompidou de Shanghai. qui est un vieux projet hein, qui date du début des années 2000 et aujourd'hui c'est Serge Lavigne, le président du centre Pompidou, qui nous dit comment ça va être vachement bien. Et alors, ce qui est vachement bien, c'est qu'on sait déjà que le collectif de l'Étoile, vous savez, ce collectif qui en 79 a bravé la censure chinoise pour installer des œuvres d'art à côté de la cité interdite, alors que c'était parfaitement évidemment interdit, des œuvres d'art abstraites, ce qui était interdit par le communisme chinois, des œuvres érotiques, ce qui était interdit par le communisme chinois, et tout un tas d'œuvres interdites tout autant par le communisme chinois, avaient donc envahi l'espace public pour montrer des œuvres et tenter de développer un art contemporain chinois. La plupart de ces membres créateurs du collectif des Étoiles sont aujourd'hui à l'étranger ou n'ont pas trop survécu à la chose. En tout cas, ils ont fui cette dictature chinoise qui les a empêchés de s'exprimer, qui les a mis parfois dans des camps, les a isolés. Alors, un aujourd'hui qui est très célèbre et qui vend beaucoup de ses œuvres, c'est Ai Weiwei, mais pourtant, il faut pas oublier qu'il était une toute petite chose dans ce collectif. Mais aujourd'hui, effectivement, il reste symbolique dans la lutte de ces artistes chinois qui œuvrent depuis l'exil, hein, il faut le dire. Alors on sait déjà que cette histoire de l'art chinoise ne sera donc pas montrée au Centre Pompidou. Pourtant, le Centre Pompidou ici en France a dans ses collections un certain nombre d'œuvres de ces artistes majeurs chinois. Et ce qui est quand même malheureux, c'est qu'on a aujourd'hui une population jeune d'artistes en Chine qui peut ne pas connaître ces artistes chinois. Parce qu'il y a eu là une telle censure en Chine que, comme beaucoup d'autres sujets chinois, ils ont été complètement effacés de l'histoire collective de la Chine. Et donc, c'est une histoire qui n'existe pas. Et l'art, c'est quand même quelque chose d'important. Et quand on l'annihile, ça a des répercussions importantes. Et ce qui est scandaleux, bien évidemment, c'est que le centre Pompidou, en s'externalisant et en ouvrant une officine en Chine, participe à cette censure, mais l'air de rien. Les propos de son président, Monsieur Lavigne, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce qu'il vaut pas mieux finalement s'installer là-bas et tenter de changer un petit peu et tout en douceur les choses.
Ah bah c'est bien connu, hein. On fait du commerce avec la Chine depuis des années et ça évolue, hein. Non, pas du tout. Donc c'est un vrai truc qui a jamais marché.
C'est ce que nous rappelle sur son site France Inter dans un article concernant ce centre Pompidou, c'est que il y a un concept qui s'appelle le soft power qui a été mis en place par Joseph Nye et qui rappelle que c'est une manière soi-disant d'amener une influence plus douce, plus soft dans un pays. Alors il y a bien des critiques en disant que
Vu qu'ils vont pas pouvoir exposer des artistes chinois, l'influence elle va rester égale à zéro.
Il y a déjà une artiste chinoise qui devait dans une exposition participer avec ses œuvres, qui a déjà été censurée. C'est-à-dire que aujourd'hui le centre Pompidou a répondu aux demandes des autorités chinoises de commencer déjà à censurer une partie des œuvres. C'est pas bon signe pour la suite. Alors Monsieur Macron peut aller se pavaner en Chine et ramener des contrats. Il peut aller se pavaner aussi pour inaugurer ce centre Pompidou à la française. Reste qu'en fait on ne fait que répondre à une dictature tranquillement, et donc en interdisant à des artistes d'exister dans leur propre pays, à une histoire de l'art chinois d'exister sur le sol chinois, et puis ça veut dire qu'on sait déjà que d'autres artistes internationaux seront censurés, alors qu'on sait que dès le départ il y avait pourtant dans la charte l'idée de dire on va prôner évidemment les œuvres d'art françaises, mais aussi prenez l'art contemporain chinois et le mettre en avant. On sait déjà que cet art chinois, il va être cadré, rentré dans des normes bien précises de l'idéologie du parti, et donc c'est pas super et qu'on ferait mieux d'arrêter de se pavaner là-bas, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Alors on va rester avec Macron, effectivement, tu l'as spoilé un petit peu tout à l'heure là.
Ouais, j'ai spoilé. Ouais.
Et il a annoncé officiellement dans cette escroquerie là, c'est la troisième fois qu'il ouvre ce conseil de défense écologique, et il a dit que le Europa City, un méga projet vers pas loin de Paris là, était abandonné. C'était un méga complexe de loisirs et de commerce, enfin surtout de commerce. C'est vers Gonesse, hein, si je me trompe pas.
Dans le Val d'Oise, ouais.
Voilà. Donc à 15 bornes de la capitale. Alors, le truc dit comme ça, on se dit, ouais, c'est bien, il a appris, comme sur la mine d'or hein, en Guyane, là, il est obligé de reculer, il y a trop de pression. Alors, il y a énormément de pression, le projet, il est complètement en dehors de tout ce qu'on peut imaginer d'un projet en 2019, hein, alors que Macron parle d'écologie tous les jours. Alors, vous me direz, il en parle et il fait jamais rien sur l'écologie. D'accord. Mais voilà, alors, donc du coup, on pourrait dire, bah, c'est un progrès, sauf qu'en fait, c'est un piège. En fait, c'est pas un vrai progrès, puisque ils savent depuis un petit moment que le projet est trop critiqué, trop attaqué pour qu'ils arrivent à en faire vraiment quelque chose. Donc ils ont préparé, ces petits capitalistes destructeurs de la planète, un projet alternatif. Et c'est ce que Macron va mettre en avant très bientôt. Un projet qui serait un peu moins clivant, un peu moins pourri en apparence et tout aussi néfaste, bien évidemment, pour la planète.
Tu veux dire qu'on va pas conserver les terres agricoles, que quand même elles vont être mangées par un projet alternatif.
Voilà, et je pense qu'il va utiliser le mot alternatif, ce qui nous fera donc en plus vomir. Voilà, c'est ce qui se cache. Alors, vraisemblablement, on sent que ça va être une fausse bonne nouvelle. Bon, c'est tant pis. Alors maintenant, on va parler d'autre chose, de catastrophe, toujours dans cette rubrique énergie-environnement. On va reparler de Lubrizol, puisque...
T'aurais juste pu dire quand même que le maire de Gonesse, c'est pas notre ami. Il a déjà fait un communiqué pour dire que c'était absolument scandaleux. Que tout ça s'arrête, parce qu'ils allaient perdre de l'argent, de l'emploi et de l'activité dans un territoire en difficulté. Il est absolument fou furieux, maire de Gonesse. Voilà,
mais lui aussi joue un rôle, hein, puisqu'il est au courant de ce qui se prépare derrière. Voilà, et bon,
il dit que, au nom d'une vision uniquement symbolique de l'écologie, ça sert à rien d'arrêter le projet. Une vision symbolique de l'écologie.
Ah ouais, parce que lui, il avait une vision pas du tout symbolique de la destruction de la planète, puisque c'était une vision réaliste.
Ben non,
il défonçait tout.
Il fait partie, tu sais, de ces gens de droite qui opposent écologie et social. Alors que nous, on va dire que ça va ensemble et que les choses peuvent aller ensemble et doivent aller ensemble. Bah lui, non. Il pense que l'urgence écologique, elle fait chier l'urgence sociale.
Ouais, enfin, de toute façon, il n'y avait pas d'urgence sociale là.
Ben
ça allait créer des emplois qui allaient en détruire d'autres. Hein, parce qu'il y avait des assauts de commerçants qui étaient contre aussi. Hein, parce
tout à fait.
Ça, on rappelle, hein, les gros centres commerciaux détruisent toute la vie économique autour, en fait. Et ils phagocytent tout. Oui, donc on revient sur Lubrizol, puisqu'il y a. Alors, c'est en fait surtout quelqu'un qui a lancé, qui s'appelle Vincent Bourges, qui a lancé une campagne d'abord sur Litchi. Pour demander de l'argent, est-ce qu'on l'aide à financer des mesures environnementales sur la pollution autour du site de Lubrizol, là, dans la région de Rouen. Donc en 72 heures, il est arrivé à récupérer 2 500 €. Il a tout de suite fermé parce que ça suffisait largement pour ce dont ils avaient besoin. Et on a les résultats des premières mesures qui sont arrivées aujourd'hui. Et il explique que c'est plutôt rassurant en fait, hein, puisque les agriculteurs peuvent. Alors, c'est des prélèvements donc chez quelques agriculteurs hein, qui étaient partenaires de Vincent Bourges. Ils ont cherché les polluants traditionnels liés à l'incendie, hein, donc ces hydrocarbures polycycliques, enfin les toxines, les dioxines, je veux dire les furanes, des choses comme ça, aussi bien dans les serres que dans les cultures en plein champ. Donc ils ont pris de la terre. Alors chaque fois ils ont fait plusieurs prélèvements, en général 3 sur des zones assez proches. Au cas où il y a eu une pollution locale du style, ils donnent l'exemple, on a un problème avec le tracteur, on perd de l'huile. Si on trouve l'huile dans le sol, faut pas que ça soit dit que ça soit Lubrizol, alors que c'est une pollution sur 5 cm² qui est liée, voilà, à un accident, un jour une fuite dans le tracteur. Ça serait pas de bol de tomber là-dessus. Du coup, c'est pour ça qu'ils font 3 prélèvements pour vérifier s'ils se contredisent pas. Et effectivement, les prélèvements sont jugés fiables. Alors ils l'ont fait avec dans toutes les règles de l'art, hein, comme on dit, et notamment. Quelqu'un qui vient vérifier que tout se passe bien pour que ça soit officiel. Donc ils ont cherché plein de choses, ils n'ont pas trouvé grand chose. En tout cas, rien qui dépasse les normes, aussi bien sur les métaux lourds, sur les dioxines, rien qui dépasse. Donc c'est plutôt rassurant. Par contre, ce qu'on voit dans les mesures, c'est la pollution résiduelle, qui elle n'est pas liée à l'accident de Lubrizol, est liée à l'existence de ces sites industriels qui mettent des polluants partout. Et ça va du coup rebondir sur l'info que je dirai après. Mais en fait, à travers ces mesures indépendantes là de ces deux maraîchers bio, on retrouve une pollution endémique liée aux industriels qui sont pas capables de pas émettre de polluants dans leurs activités. Donc là, au final, c'est plutôt positif. Donc ils vont continuer un petit peu à faire des mesures, mais ça les rassure eux déjà. Ça va dans le sens aussi des mesures de l'État, ce qui n'était pas évident au départ, hein, vu que l'État a pas joué franc jeu tout le temps et partout. Et ça va permettre aux personnes qui ont des jardins de manger leurs légumes sans s'inquiéter, de laisser jouer les enfants dehors, etc., etc. Reste d'autres problématiques qui sortent un petit peu de l'étude là, mais on a trouvé des traces d'hydrocarbures dans certains laits maternels, donc c'est pareil, il faut vérifier. Pour l'instant, ce qui a été mesuré ne permet pas de conclure réellement à une contamination des mamans qui auraient respiré cet air, etc., parce que c'est pareil, on a pu tomber sur une maman qui avait été en contact avec des hydrocarbures à un autre moment. Donc là, pour l'instant, c'est pas sûr du tout, mais il y a des études qui vont aller plus loin. Par contre, ils ont retrouvé quand même des problèmes de foie. Donc, ça, on mesure avec les transaminases, hein, les enzymes qu'on mesure dans le sang, qui permettent de donner un petit peu une qualité en disant s'il y a un problème au foie ou pas. Chez les pompiers qui sont intervenus sur l'incendie de Lubrizol, et là, les mesures sont pas bonnes. Donc, pour l'instant, c'est pareil, c'est difficile d'établir un lien direct, mais il y a quand même des pompiers qui pour l'instant pense à déposer plainte puisqu'ils ont sûrement morflé dû à la pollution de ces fumées. Enfin voilà. Et alors dans une info qui est presque en réaction de tout ça, enfin ou qui s'apparente au problème de la pollution résiduelle endémique qui est présente un peu partout dès qu'on a de l'activité industrielle notamment, c'est l'histoire des bébés sans bras. Alors on est concerné, hein, parce qu'il y a l'Ain qui est pas très loin du Rhône là, qui est une des trois régions dans lesquelles ces malformations ont des taux très très élevés. C'est Tiffaine et Samuel Bernard qui sont les parents d'Aliénor, une de ces enfants, de ces bébés sans bras, c'est le terme qui a été utilisé. Le vrai terme, hein, c'est y a un terme technique qui s'appelle la génésie transverse des membres supérieurs. Donc ils étaient convoqués à une réunion du comité d'orientation et de suivi. Ça s'appelle le COS, des enquêtes sur les malformations. On rappelle que quand c'était sorti, la ministre en charge, Agnès Buzyn, en charge de la santé, avait botté en touche en disant non mais il n'y a rien. À force de médiatisation, elle avait été obligée de créer ce COS et de créer un CES aussi. J'adore les acronymes français. Là, c'est le comité d'experts scientifiques qui sont censés vérifier que quelle est la raison de ces anomalies chez ces nouveau-nés au niveau statistique, parce que c'est ce qui les inquiète, que de temps en temps il y ait ces problèmes de bébés sans bras, ça arrive, que ça soit concentré dans trois régions, il y a peut-être une autre cause. Eh ben, ils se rendent, Tiffaine et Samuel Bernard, à cette réunion. Alors on leur dit que bon, en fait, ils vont pas pouvoir faire grand chose parce qu'ils savent pas comment chercher. C'est pas mal quand même. Et puis de toute façon, on leur dit que bah le COS, c'était la dernière réunion, c'est fini. Ils sont contents. Alors il y a quand même une étude en cours, mais du coup, je sais pas comment ils vont apprendre les résultats, parce que voilà, ce comité d'orientation et de suivi est fermé. Donc les parents qui avaient droit d'aller à ces réunions du COS, eh ben ils auront plus rien. Donc voilà, c'est juste l'escroquerie du ministère de la Santé et d'Agnès Buzyn, la ministre. En fait, ils savent pas comment chercher, c'est qu'ils ont pas envie de chercher. Et en fait, l'idée qui court, c'est il y a pas d'explication scientifique, hein, sur ces anomalies et une pollution voilà qui serait importante à un endroit. Mais il y a des idées qui courent chez les scientifiques depuis des années sur les multisources de pollution auxquelles on est au jour le jour confronté. Et notamment dans ces régions, il y a peut-être un cocktail de polluants. Individuellement, ils sont pas en dehors des normes, mais par contre, si vous en avez 92 000 qui sont en dehors des normes, la somme des 92 000, le chiffre est exagéré bien évidemment, mais ça peut devenir inquiétant. Et ça peut avoir un impact sur la santé. Or, il y a quasiment aucune étude, ou très très peu d'études, sur plusieurs polluants en même temps. Donc, c'était l'occasion, cette affaire des bébés sans bras, et ben de lancer des études importantes en France, de mettre un budget pour faire enfin des études sérieuses sur l'impact sur la santé de ces petites sources de pollution, mais ces multiples sources quotidiennes de pollution. Agnès Buzyn a décidé que c'était pas important, donc voilà. ça part, ça va disparaître petit à petit et les parents vont plus avoir que les yeux pour pleurer. On reste dans l'énergie environnement. La petite structure qu'on appelle la FNSEA, vous savez, ce syndicat patronal agricole qui défend l'agriculture polluante et productiviste, ont déposé plainte contre Europe Écologie Les Verts. Et j'adore. Je suis très très fan de la FNSEA ou de la FDSEA, puisque là c'est la FDSEA 80 très exactement qui a déposé plainte. C'est la forme départementale du syndicat patronal agricole. Et il a déposé plainte contre les Verts, donc pour, je cite, pollution démocratique. Là, on se dit, putain, merde. Les principaux, alors, on rappelle, hein, la FNSEA, la FDSEA sont les principaux pollueurs des rivières françaises. Et eux, leur pollution, elle a un impact sur la santé. Et ils accusent les Verts d'être des pollueurs démocratiques. Alors, on se dit, putain, c'est quoi les pollueurs démocratiques, tout ça? C'est un nouveau concept inventé par ces pollueurs, qui sont eux des vrais pollueurs. En fait, ça remonte à ce qui s'est passé l'année dernière et cette année. Et un peu avant encore. En fait, c'est toujours sur le projet de loi sur l'épandage des pesticides, enfin des produits phytosanitaires, tous ces produits toxiques, les pesticides, tout ça, par les agriculteurs. Et c'est cette histoire de zone de distance minimale entre les zones polluées par les produits qu'utilisent les agriculteurs de la FNSEA ou de la FDSEA, et les habitations, les écoles, les lieux de vie, quoi. Alors, le gouvernement a un projet, hein. Alors, il y a un projet, une loi qui avait déjà été rétoquée. Il y a un projet, on sait que le gouvernement a déjà décidé, hein, que ça serait 10 mètres, etc. Mais le gouvernement est obligé de mettre en place une consultation citoyenne sur qui a duré 3 semaines. Et ce qu'on fait Europe Écologie Les Verts, ils ont monté un site internet pour mettre en avant cette consultation, en disant à leurs adhérents, si vous voulez aller remplir la consultation, c'est un peu compliqué, on vous aide, vous allez sur notre site, et vous cliquez, et ça envoie un formulaire pré-rempli, déjà, avec nos arguments à nous, vous pouvez les modifier, et si ça vous va, envoyez nos arguments, c'est ce qui évite à tout à chacun d'aller réécrire des longues phrases pour expliquer les choses, alors que finalement, les Verts avaient fait des bons résumés. Et du coup, cette aide citoyenne à aller postuler, aller donner un avis sur le site internet de cette consultation citoyenne, c'est ce que les agriculteurs pollueurs appellent de la pollution démocratique. Donc ils ont déposé plainte. Alors c'est triste, c'est risqué aussi pour la démocratie, pour le coup, et quelque part, c'est dangereux, c'est ridicule de la part de la FDSEA. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais redire un truc avant. C'est ce site qui a duré, cette consultation qui a duré 3 semaines. Il y a eu 50 000 avis déposés et le formulaire envoyé par les Verts a permis d'en déposer à peu près 15 000. Donc c'est un chiffre non négligeable, mais c'est un site, c'était très bien fait, hein, de la part des Verts. D'abord, c'était beaucoup plus ludique, intéressant et pédagogique que le site du gouvernement. Et puis, voilà, ça aidait les citoyens avec des choses un peu pré-remplies. Et ce qui est drôle dans cette attaque, parce qu'il faut toujours un petit côté drôle, sinon on invite de faire manger à la FDSEA et à la FNSEA leurs produits qui sont pas dangereux, soi-disant. On va voir si c'est la gueule qu'ils vont faire. Hein. Non, parce que eux, ils avaient fait la même chose, en fait, il y a quelques années. C'est là où on se dit, faut quand même arrêter les bêtises. Ils avaient fait un guide de réponse à une consultation européenne sur la modification de la politique agricole commune. Donc ils avaient donné à leurs adhérents, patrons agricoles, des tableaux. Il y avait 80 cases qui étaient pré-remplis. Voilà, c'est ça que vous envoyez à l'Union européenne pré-remplis. Voilà. Donc ils avaient fait les choses. Même c'était moins démocratique puisque c'était moins facilement modifiable que le formulaire que les Verts avaient préparé. Donc ils ont fait exactement la même chose, on leur a jamais reproché, jamais personne a porté plainte contre ces imbéciles. Par contre, eux, ils portent plainte contre les Verts, donc voilà, j'espère qu'ils vont perdre. Et pour terminer, un petit truc sympa qui s'est passé à Paris hier. Ils étaient 91 militants et militantes, faisant partie essentiellement des Amis de la Terre et de Action Non Violente COP21. Ils sont incrustés dans un hôtel, qui est l'hôtel intercontinental, dans lequel il y avait une conférence qui s'appelle EAGC, ça veut dire la Conférence Européenne Annuelle sur le Gaz. C'est en anglais, donc ça se lit dans l'autre sens, européenne, machin. Alors c'est quoi? C'est une réunion entre les investisseurs privés, les pouvoirs publics et on discute des exploitations de gaz. Donc c'est un truc anti, enfin pro-destruction de l'environnement. Hein. On rappelle que le gaz, c'est un hydrocarbure et que ça augmente donc quand il brûle les taux de CO2. Donc ils sont incrustés, ils ont foutu un beau bordel, hein, pour parler un peu vulgairement. Ils ont fait sonner des alarmes, tout ça. La réunion avait à peine commencé que les membres de la réunion ont craqué et ils ont dit bon, on annule, allez, on se barre. Voilà, donc c'est une réussite. Ils dénoncent parce que les pouvoirs publics sont partie prenante d'un truc comme ça. Il y a des élus qui en font partie. Et puis ça rappelle que la Société Générale, et c'était une de leurs revendications, donc la Banque Française, Société Générale, participe au financement de Rio Grande LNG, un terminal d'exportation de gaz de schiste aux États-Unis, gaz de schiste qui arriverait en Europe. Alors gaz de schiste, c'est le summum de la pollution engendrée par du gaz, hein, bien évidemment. Donc voilà, ça dénonçait tout ça. Ils ont réussi leur coup à faire annuler cette horrible réunion. Bravo.
On va parler de toute autre chose. Je vais laisser un tout petit blanc pour poursuivre. Nous allons partir à l'international et on va parler d'Irak, parce que ça fait quand même un mois qu'il y a des manifestations et c'est vrai qu'on n'en parle pas. C'est un peu le bazar, l'Irak.
Alors, c'est comme le Liban. C'est-à-dire que...
T'as le même genre.
Oui, mais les partis politiques sont dépassés. Et notamment l'Iran, qui intervient en Irak et qui intervient au Liban, comprend rien à ce qui se passe, quoi.
Alors donc ça fait un mois que les gens descendent dans la rue. Il y a aujourd'hui un couvre-feu. Les journalistes présents sur place ont vu apparaître les forces antiterroristes, c'est-à-dire que c'est des groupes qui jusqu'à présent chassaient Daesh. Et qui s'en prennent aujourd'hui aux manifestants. Il y a donc un appel à la grève. Il faut savoir qu'il y a des routes qui sont carrément coupées. Il y a tout ce qui est industrie pétrolière qui est bloquée. Les services publics sont arrêtés, les écoles sont fermées. Alors à côté de ça, il y a une vie qui se maintient. Il y a des commerces, voilà. Mais il y a des quartiers qui sont en train de se réorganiser, et des places qui sont occupées. Et puis il y a Internet qui est coupé. Donc ça ne facilite évidemment pas le travail des journalistes sur place, il faut bien le dire. Et puis, je vous le disais, il y a donc ces forces antiterroristes qui sont aujourd'hui dans la rue alors qu'il y a un couvre-feu. Et on sait aujourd'hui, par l'AFP qui fait un décompte, parce que l'État irakien ne le fait plus, qu'il y a environ 280 personnes qui sont mortes. Depuis le début de ce mouvement.
Tué par les forces de police et de répression de l'État irakien.
C'est énorme. Il faut savoir qu'il y a une centaine de manifestants qui sont morts au moment de la première semaine. Et ça, c'est quand même extrêmement inquiétant, bien évidemment. Aller dans la rue avec des balles réelles, c'est quand même dingue. Alors ça a fait réagir la France, qui évidemment traite très très bien ses manifestants et ses manifestantes.
C'est bien connu.
Alors évidemment en France on n'a encore pas les balles réelles. Par contre on a des gens qui se font arracher la gueule, la mâchoire, les yeux, arracher les mains.
Mais on est quand même un peu en dessous au niveau de la violence.
Un peu en dessous, mais quand même, l'État français n'est pas gêné d'aller dire aux autorités irakiennes, vous devez laisser les manifestants manifester pacifiquement. Non, c'est pas vrai. Enfin bon, c'était juste pour ça. Alors effectivement, tu le disais au début, en dévoilant un peu mon sujet, c'est effectivement la même problématique qui se passe au Liban, c'est-à-dire qu'on a un système irakien qui date quand même de la chute de Saddam Hussein. Pour vous dire que c'est quand même pas tout à fait récent, et un pays aussi qui a une très forte corruption dans sa classe politique, donc dans la classe qui a le pouvoir aujourd'hui, hein, parce que ça va avec dans un certain nombre de ces pays qui n'ont pas une démocratie, hein, en tout cas facile, hein, et directe. Donc les manifestants accusent leur politique d'être corrompue et incompétente. C'est à peu près les termes qui étaient employés effectivement par les manifestants limans. Et ces manifestants réclament une réforme du système politique complet, c'est-à-dire que maintenant on est sorti de la guerre, des guerres, et que donc il faudrait maintenant avancer et réformer tout ça pour mettre enfin de la démocratie et partager le pouvoir. Alors il faut savoir aussi que effectivement, comme au Liban, c'est un pays qui se retrouve malheureusement avec les voisins qui donnent leur avis. Alors il faut savoir que c'est aussi un pays partagée chez les musulmans, puisque les chiites sont très nombreux dans les députés. Et donc aujourd'hui, c'est une espèce de c'est le bazar hein, dans la rue, puisque dans certaines villes, comme à Karbala, où il y a eu 4 morts hein, là lundi, hein, des gens tués donc par la police et par la répression, c'est une ville qui est une ville chiite, dans laquelle les Iraniens viennent en pèlerin hein, chaque année. C'est une ville qui a été attaquée par les manifestants, il faut le dire quand même comme ça, où on a demandé donc à l'Iran de partir. Alors évidemment, ça pose des soucis pour les chiites aussi sur place, qui se voient mis en porte-à-feu. Ça, il faut bien aussi avoir conscience de certaines choses. Mais l'Iran ayant tellement mis la main mise sur les chiites sur place, comme au Liban, aujourd'hui les protestataires demandent à l'Iran de se barrer. Et donc s'attaque aussi aux députés chiites qui, en plus de ça, détiennent pour certaines milices qui ne font pas du bien à la population locale, il faut bien le dire. Dans certaines villes autres que Bagdad, c'est pas simple de vivre. Donc on a aujourd'hui un premier ministre qui s'appelle Adel Abdel Mehdi, qui avait proposé 3-4 trucs, mais très franchement, ça n'a pas bien plu a priori aux protestataires manifestants dans la rue, qui ont dit « mais non, va-t'en ». À côté de ça, il y a une classe politique qui lui dit aussi « mais vas-y, démissionne ». Alors, ce Premier ministre a expliqué qu'il ne démissionnerait pas, puisque ça serait participer au vacarme ambiant, si vous voulez, et que c'est un pays qui est instable, et que donc si jamais il démissionnait, ça ne ferait que mettre un peu plus d'instabilité. Ça pourrait se tenir, ça pourrait. Donc il propose au Parlement de lui trouver un remplaçant, et comme ça il laissera la place. Pas simple quand tu sais que la moitié des députés ne s'adressent pas la parole. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement quand même 280 morts en un mois. C'est énorme, 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 énorme. Et que c'est un pays quand même qui a du mal à se relever des différentes guerres. Je vous rappelle qu'il y a une, si vous êtes peut-être très jeune à nous écouter, qu'il y a eu une guerre en Irak, qui a été une barbarie sur place, qu'il y a eu l'invasion américaine qui n'a pas aidé, et que c'est un pays qui a du mal à se relever, même depuis la mort de Saddam Hussein. En fait, on peut même dire que ça n'a pas aidé, et qu'en plus, avec l'État islamique qui s'était mis une petite couche par-dessus, c'est un pays qui économiquement va mal, politiquement va mal, et il y a du mal à se sortir de l'ornière que tout ça crée, et n'est pas aidé non plus par la communauté internationale, il faut bien le dire. Je vais parler maintenant d'autre chose, et on va parler toujours dans... l'international, je vais vous donner deux exemples des problématiques de la diplomatie qui est à la fois une problématique liée à l'espionnage et au commerce. Alors évidemment, vous allez tout de suite penser à la Chine et aux États-Unis qui sont en pleine guéguerre d'espionnage et économique. Et il y a aux États-Unis une enquête qui est demandée sur l'application TikTok. Vous connaissez peut-être cette application, surtout si vous avez des adolescents, parce que c'est une question qui est extrêmement utilisée aujourd'hui en France chez les plus jeunes et qui est extrêmement utilisée aux États-Unis. C'est l'application la plus téléchargée après Instagram. C'est pour vous dire à quel point quand même c'est hyper téléchargé, parce que Facebook c'est rien, je vous le dis tout de suite. C'est en tout cas une application qui aujourd'hui appartient à un groupe chinois. Et c'est sur cette question-là qu'aujourd'hui l'application et le groupe sont attaqués, c'est pour savoir si TikTok récupère les données de ses utilisateurs et utilisatrices, qu'est-ce que deviennent ces données, comment elles sont utilisées, est-ce qu'il peut y avoir à travers l'application une participation à la vie électorale des États-Unis d'Amérique, puisque je vous rappelle qu'il va y avoir des élections prochainement pour un nouveau président, peut-être une présidente, sait-on jamais. Donc là, c'est une enquête hein, qui est demandée aux États-Unis, c'est le comité sur l'investissement étranger aux États-Unis qui doit donc s'occuper de cette enquête sur l'acquisition de TikTok. C'est un comité qui agit dès qu'il y a une entreprise, quelque chose qui est acheté aux États-Unis par une entreprise étrangère, et soit une entreprise peut demander elle-même à être certifiée par le comité, soit c'est le comité qui va être interpellé par des députés aux États-Unis d'Amérique et qui donc, ou des sénateurs, et qui va donc lancer une enquête. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et là, l'idée, c'est donc pour TikTok de montrer patte blanche, comme toutes les entreprises chinoises qui aujourd'hui ont des problèmes aux États-Unis d'Amérique, et d'arriver à prouver que c'est pas l'entreprise mère qui est en train de récupérer des données pour évidemment, les autorités chinoises. Donc ça va être à démontrer. Alors, il y a eu un petit couac cette semaine, puisque les patrons, on va dire, de TikTok, devaient se présenter devant ce comité, et en fait, ils ne se sont pas présentés. Donc ça, c'est pas un gage de bonne foi, si vous voulez, pour aller vers l'avant, et éviter donc de se faire fermer, tout simplement. Il faut savoir qu'il y a des drones chinois qui sont utilisés par les États-Unis d'Amérique, par l'armée, et qui ont été mis à l'arrêt parce que ce sont des drones chinois et qui peut-être...
Bah oui.
Voilà, bah ouais, mais ils n'y avaient pas pensé avant.
Non mais les Américains font la même chose, quand ils vendent du matériel, exactement, il y a toujours un moyen de le rendre inoffensif si jamais... voilà. Et donc les Chinois ont sûrement mis des petits bouts de logiciels comme ça pour contrôler cette bonne guerre, dirons-nous.
Moi j'attends les films hollywoodiens qui vont me le prouver. Donc sinon maintenant on va partir en Corée du Sud, qui se retrouve aussi en problème avec la Chine, qui est quand même un acteur majeur de notre économie mondiale aujourd'hui, et ça fait quelques années, et donc dès qu'il y a des soucis, paf, ça tombe. Et là c'est le secteur. C'est Frédéric Ojardias, qui est un correspondant donc pour les médias français et pour RFI, il me semble, en Corée du Sud, qui nous raconte ça. Et puis, il y a eu plusieurs articles d'économie sud-coréen qui disent que le secteur du jeu vidéo va très très mal et qu'il pourrait y avoir de très forts licenciements en Corée du Sud dans le secteur. Alors, c'est un secteur extrêmement développé et qui vit beaucoup grâce à la Chine. Enfin, qui vivait beaucoup grâce à la Chine, parce que depuis 2017, il y a un blocage. Un blocus. Les autorités chinoises ont interdit les jeux sud-coréens de pouvoir être distribués et d'avoir des autorisations pour exister sur le territoire chinois. Ce qui fait que y a une baisse absolument catastrophique des ventes pour les éditeurs sud-coréens, qui, dont le premier pays, c'est la Chine, et se retrouvent à plus pouvoir donc vendre leurs bidules de l'autre côté, et donc vont devoir licencier. Alors c'est un secteur très important en Corée du Sud, donc ça veut dire quand même des gros licenciements. Alors on parle de 40 à 60% de perte de chiffre d'affaires pour les plus gros éditeurs de jeux vidéo en Corée du Sud, mais là aussi c'est une guerre. Pourquoi on en est là? Ils ont pas juste dit la Chine, clic, on va juste donner nos jeux vidéo. C'est qu'en fait, la Corée du Sud se prépare aussi quelques difficultés avec le Nord, et puis quelques difficultés avec le Japon, enfin voilà, quelques difficultés tout court, et donc installer, vous savez, des trucs un peu paratonnerre à missiles, vous voyez un petit peu l'idée. Et ça a pas plu à la Chine, qui estime qu'en faisant ça, elle bloque aussi son processus militaire, et donc depuis... la Corée du Sud est sanctionnée. Alors du côté de la Corée du Sud, ça gueule un peu en disant mais attendez, le gouvernement, vous faites rien. Pourquoi vous réagissez pas? On est en train de perdre tout un secteur, toute une activité, et vous fermez votre bouche. Vous ne critiquez pas ce qui est pour nous une sanction économique extrêmement forte, et vous ne faites rien. Voilà. Il paraît aussi que en Chine, il y a un nouveau marché qui s'est développé. C'est le magazine Forbes. C'est Frédéric Ojardias qui nous raconte ça. Magazine Forbes nous apprend qu'en fait, il y a des Chinois qui ont récupéré les jeux sud-coréens, puis qui les remettent à la sauce, et qui vendent aujourd'hui sur le marché chinois les jeux sud-coréens. Mais rien ne se perd.
Dans le capitalisme.
Tout ce que se transforme. Et ouais. Voilà, c'était juste pour vous dire que c'est aussi ça la diplomatie internationale.
Moi j'ai trois petites phrases un peu ridiculement pas drôles, mais que j'ai appelées S de l'humour. Donc ça va concerner Erdogan, Castaner et Macron. Des personnes qu'on apprécie tout particulièrement dans ce Canu Info du jeudi. Enfin, je crois que dans aucun Canu Info, ils sont appréciés. Sur Radio Canu.
Je crois que c'est unanime, effectivement.
Ouais, je crois que on est unanime sur ces gens-là. Donc, Erdogan, le président très autoritaire de la Turquie, il n'est pas content aujourd'hui. Il a fait une petite phrase. Il a dit non, mais la FNSEA, là, c'est méchant. Vous avez adopté une attitude discriminatoire contre la Turquie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une enquête disciplinaire qui est ouverte suite au match, c'était France-Turquie, un truc comme ça, où les soldats turcs, juste au moment où l'armée turque allait massacrer, rentrait en Syrie pour aller massacrer les Kurdes, et donc ils avaient fait le salut militaire. Donc voilà. C'était un signe de soutien à leur armée et pour aller massacrer les Kurdes. Donc lui, il trouve que c'est discriminatoire. Ouais, bon. Castaner, lui, alors, il a fait un petit tacle à Adèle Haenel, cette actrice qui a dénoncé il y a quelques jours les abus sexuels qu'elle a subis quand elle était pré-ado ou ou ado,
voilà, une quinzaine d'années,
entre 12 et 15 ans en fait, donc elle était très jeune, par le réalisateur Christophe Ruggia, et elle a dit, voilà, elle explique le truc, ça a été compliqué, hein, ça l'a abîmé, et qu'elle comptait pas déposer plainte. Voilà, c'est bon. Et Castaner, vous savez, Castaner, je dis pas monsieur parce qu'il mérite pas, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est celui qui envoie les mecs tabasser ceux qui sont pas contents, celui qui... Enfin bon, bref. Il a dit, oh mais elle doit faire confiance à la justice. C'est drôle. On pourrait dire la même chose hein, aux victimes de violences policières. Faites confiance à la justice. Ah non, la justice, elle en a une affaire de vous. Sur les violences conjugales, du coup, c'est pareil. Hein, quand vous arrivez dans un commissariat, en général, vous avez une chance sur deux, je crois que les chiffres c'est à peu près comme ça, qu'on vous prenne pas au sérieux. Vous, femme, victime de violences conjugales. Donc bref, la justice, la police, tout ça, voilà, ça fonctionne pas toujours très bien, et dans ce genre de cas, ça fonctionne. Voilà, que Castaner il fasse des leçons, ça fait rire jaune en tout cas. Lui qui fait tout pour que la justice elle n'aide pas les Françaises et les Françaises victimes, notamment des gens qui sont sous ses ordres. Et puis le dernier c'est Macron. Alors tu l'as déjà dit, du coup tu m'as excusé parce que j'ai trouvé ça assez ridiculement hypocrite. Mais ça, je pense que c'est les politiciens de tout pays sont les maîtres de l'hypocrisie, puisqu'il a dit, oui, avec Xi Jinping, nous avons parlé de tous les sujets de manière extrêmement libre. Voilà, ils ont parlé. Ouais, ça va, il pleuvait. Ouais, super, putain. Et le Xinjiang. Ah ouais, tu viens voir, faut que tu visites. C'est super beau, le Xinjiang. En plus, on a fait des camps pour les gens qui nous embêtent un peu. On les a mis dans les camps. Maintenant, tu peux aller dans les villes, c'est tranquille. Ouais, puis bon, voilà. Il fait croire tout ce qu'il veut. En tout cas, il est pote. Enfin, il fait ami-ami avec un dictateur sanguinaire qui massacre les Ouïghours. Mais on peut parler aussi de Hong Kong et de la situation difficile pour les démocrates hongkongais. Macron prend position parce qu'il signe rien avec il signe des trucs mais pas des trucs importants, c'est-à-dire qu'il fait rien signer sur Hong Kong, il fait rien dire d'officiellement sur les Ouïghours. Non, en fait, il soutient quelque part son ami dictateur, il est juste ridicule, il est là pour faire du business, il a vendu des trucs, et vendre des armes à un sanguinaire, vendre des centrales, je sais pas ce qu'il a vendu, là j'ai pas regardé, j'en ai rien à faire. En fait, on fait pas du commerce avec des dictateurs sanguinaires, mais ça, vraisemblablement, Macron l'a pas intégré. Peut-être parce que c'est juste son petit copain, quoi. Voilà, son petit copain, pas dans le sens sexuel, mais son pote. Comme il est pote avec Poutine, il essaye de faire des trucs avec la Russie, voilà. La démocratie s'arrête à la démocratie représentative, dirons-nous.
Oui, puisque les mouvements continuent. Ça s'est pas arrêté, hein. Et les gens sont toujours dans la rue, il y a toujours de la répression. Il y a d'ailleurs un des opposants au système chinois qui a perdu un bout d'oreille, hein, qui y a eu une attaque au couteau. Ils ont été 5 à être blessés. Voilà, ça se poursuit de partout. Il y a plusieurs pays dont on n'a pas parlé dans ce qu'est l'info qui sont aujourd'hui quand même en train de se soulever. Bon, c'est Monsieur Macron, ça l'intéresse.
Il va pas dire qu'il est pour les soulèvements, parce que bon, ici, il galère un peu, il a peur du 5 décembre, tout ça. Forcément, il botte en touche, il préfère les dictatures, du coup. Tu veux parler vite fait de Lafarge?
Juste pour dire, parce que tout le monde en a parlé, mais c'est vrai qu'on en avait nous-mêmes pas mal parlé à l'époque, hein, c'est pour dire que la Cour d'appel de Paris a annulé les poursuites pour complicité de crimes contre l'humanité contre Lafarge. Vous savez, c'est cette affaire en Syrie.
Ils ont financé l'État islamique.
Pas gêné.
Non, sans problème. Plusieurs millions de données à l'État islamique pour pouvoir continuer leur activité économique. Bien évidemment, l'économie passe avant le massacre des personnes. Mais bon, voilà, Lafarge, ils se sont fait prendre la main dans le panier. Et du coup, ils sont quand même poursuivis pour plein d'autres choses. Donc là, ils vont sûrement être condamnés. Enfin, ce serait illogique qu'ils soient pas condamnés, vu que les preuves sont sorties, qu'il y a tout ce qu'il faut. C'est dommage, effectivement, sur le crime contre l'humanité, parce que c'est plus compliqué à prouver un crime contre contre l'humanité directe, en fait, d'implication de Lafarge. Symboliquement, ça aurait été important d'aller jusqu'au bout de la démarche. La justice a décidé que non, c'est toujours un peu triste.
Alors, pour dire le groupe le Cimentier, comme on a l'habitude de dire, est toujours poursuivi pour violation de l'embargo, mise en danger de la vie de ses salariés et financement du terrorisme. Il y a des dirigeants, des cadres qui sont poursuivis, l'ex-PDG du groupe. Donc, c'est pas fini. Il y a toujours des associations qui se battent pour faire condamner Lafarge. Donc, c'est aussi un dossier qui n'est pas fini, parce qu'il y a aussi des militants et des militantes qui veulent qu'une multinationale en prenne plein la gueule, et ils ont bien raison. C'est difficile, hein, la justice aussi, contre une multinationale, parce qu'il faut se lever tôt, et puis il faut avoir derrière... des gens qui ont envie de les faire tomber, ces multinationales. Mais là, ils ont quand même mis en danger aussi leurs salariés, et ça, c'est aussi un des sujets qui, à mon avis, peut marquer la multinationale. Oui.
Voilà, il est 19h59 minutes et 58 secondes, ça y est, c'est 20h. On va vous laisser en compagnie de l'émission suivante. On se retrouve la semaine prochaine pour le Canu Info du jeudi, et demain, vendredi, à 19h, avec l'équipe du vendredi.
Voilà, donc la petite cuillère tout de suite va se rapprocher des micros. Vous les attendez bien évidemment, et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Bye bye.